Présidera le jury de la prochaine Mostra de Venise, Festival international du film. La 77e édition se tiendra du 2 au 12 septembre. La décision de désigner l'actrice et productrice Cate Blanchett à la tête du jury a été prise le 10 janvier par le conseil d'administration de la Biennale de Venise, dont la Mostra est une entité. À la pointe du combat des femmes contre les violences sexuelles dans le cinéma, notamment depuis le scandale Weinstein, Cate Blanchett avait porté la contestation au Festival de Cannes en 2018, année où elle présidait le jury. Merci d'être à l'écoute d'RFI, restez avec nous, l'information continue. Il est presque 18h10 à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
La Fédération des radios associatives en Pays de la Loire s'associe à Trempo pour les auditions du Printemps de Bourges et soutient les artistes émergents de la région. Retrouvez les 6 groupes sélectionnés sur la scène du Chabada à Angers le 16 janvier avec Eli MC. Sahara.
Tu me vois danser sous la pluie, je te vois bronzer au soleil. Tu comptes les heures de tes nuits quand moi je n'ai jamais sommeil.
Sally.
Je fais l'amour, je fais l'amour. J'attends le jour où tu viendras frapper à ma porte.
Terrier.
C'est qu'un joujou dans la grande cour. Et les toutous nous tournent autour.
Wild Fox. Et Fierce.
Cause I love you. Love you for me.
Diffusion des concerts et interviews seront réalisées en direct par Radio G, Radio Campus Angers, E-Radio, Graffiti Urban Radio, Jet FM, Jade, L'Autre Radio, Prune et Sun. Découvrez les nouveaux talents régionaux avec les radios de la Frappe.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous écoutez maintenant L'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. Un jeudi sur deux, dans cette émission, nous parlons de sciences, de nature et d'environnement avec la chronique de Benoît. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour avoir des nouvelles de la recherche scientifique. Avant cela, j'ai choisi de vous faire retrouver l'association Pai Pai. Elle était venue présenter son projet de tiers-lieu culturel. Nous étions en juin 2019, l'adresse était connue mais le lieu était en travaux et n'avait pas encore de nom. Aujourd'hui nous sommes en janvier 2020, à moins d'une semaine de l'ouverture du 122. Ce tiers-lieu culturel donc imaginé et porté par l'association Pai Pai. Vous avez rendez-vous à partir de mercredi prochain au 122 rue de la Chalouère pour l'inauguration, au programme DJ set, vernissage, free, performance, bien d'autres choses, tout ça est gratuit. Et maintenant, on va replonger dans les archives de l'émission. Toutes les bases étaient déjà là, c'était déjà Annelie au micro. J'espère vous donner envie de découvrir le 122. C'est parti pour les archives. Alors ce soir, je vous l'ai dit, je reçois l'association Pai Pai, qui est représentée par Camille. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Et tu es coordinatrice à Pai Pai.
C'est ça.
Et tu es accompagnée d'Arthur. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Et toi, tu es à l'origine du projet de tiers-lieu dont on va parler ensemble et tu seras du côté de l'accueil.
Chargé d'accueil, bar-restaurant essentiellement.
Et avant de parler du projet, vraiment, qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver dans ce lieu? Quels espaces? Quelles pratiques? Moi, j'avais envie de revenir en quelques mots sur l'association Pai Pai. Vous êtes né en 2009.
Oui.
Et c'est une association qui soutient les artistes, la création, qui diffuse. Comment vous raconteriez ça?
Exact, c'est un petit peu ça. On va dire que ça s'est passé en plusieurs étapes, en fait. L'association Pai Pai, en 2009, c'était juste 5-10 copains qui se sont retrouvés dans une maison qui avait pour but la volonté de créer autour des arts. Il y avait beaucoup de musiciens dans cette maison. Et voilà, ça a commencé comme ça, avec un espace de répétition au sous-sol. Et puis en fait, de là est né, sont nés plusieurs concerts dans le salon, pour partager la musique avec les voisins dans un premier temps. Et puis en fait, ça a bien pris tout de suite la sauce. Et il y a eu pas mal de concerts, environ 2 par mois pendant, je dirais, 4 ans à peu près. Puis à ça, on a rajouté des expositions aussi. La maison s'y prêtait plutôt assez bien. Donc avec toujours cette volonté d'accueillir des artistes qui étaient plutôt amateurs ou émergents. Voilà.
Et locaux aussi.
Et locaux, bien sûr.
Donc c'est parti d'une petite maison, d'un projet entre copains. Et aujourd'hui, vous portez un gros projet. En tout cas, un grand projet. Donc, un tiers-lieu qui se... Comment vous le définissez, ce terme de tiers-lieu? Parce qu'on l'entend beaucoup, beaucoup plus.
C'est une question maintenant un peu compliquée. Alors, nous, c'est un tiers-lieu qui traite surtout... qui tourne autour de la culture, en fait. Très clairement, ce qui n'est pas le cas de tous les tiers-lieux. Un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un espace de vie, un espace de travail, un espace de détente.
D'échange, de rencontre.
Ouais. Voilà. Nous, oui. En fait, c'est ce qui se passe dans la maison depuis des années, en fait. On s'en est rendu compte sur le tard, mais en fait, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, puisque la maison est aussi un espace de vie avec des colocataires. Du coup, on mélangeait le travail, l'art et l'habitat. Il s'est avéré que la maison devenait beaucoup trop petite puisqu'on commençait à avoir pas mal d'activités, en fait.
Parce que l'on a parlé de l'activité de diffusion, d'organiser des concerts, des expositions. Il y a aussi une activité de soutien, d'aider peut-être des artistes à enregistrer. Et puis, il y a une activité autour de la transmission avec des ateliers, de la pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ça?
Oui. On peut.
Ça fait un peu partie de l'évolution aussi de Pai Pai, parce que donc il y avait la diffusion de concerts et expositions, et après du coup l'asso Robin et Clémence sont arrivés et ils ont pu mettre à contribution leurs compétences. Donc Robin, c'est tout sur la partie vidéo, et il y avait un besoin en fait des groupes locaux qui était exprimé, c'était d'avoir des supports vidéo, que ce soit le clip ou la captation live de concert. Et ensuite, pour la partie Clémence, donc Clémence Arnaud, qui est responsable de la pédagogie, donc elle, c'était de mettre en place du coup des ateliers dans les structures, dans les écoles, lycées, collèges, mais aussi les structures un peu spécialisées. Donc le handicap, là, elle cherche à amener un projet pour le milieu carcéral. On essaye un peu d'ouvrir sur les publics en pédagogie et voilà, c'est parce qu'on a développé cette activité-là qu'on était un peu étriqués en fait dans cette maison de 90 mètres carrés, qu'il nous fallait un autre espace de 700 mètres carrés maintenant, donc on pourrait avoir nos salles pédagogiques, mais aussi on va continuer quand même à faire des interventions à l'extérieur, mais pour nous c'est un pas quoi pour la pédagogie d'avoir nos propres salles, donc art plastique, numérique et musique. Et après, pour Robin, donc c'est aussi avoir une régie vidéo, plus de matériel et répondre aux besoins en fait, du territoire, parce que ça n'arrête pas de grandir.
Ouais.
Comment est-ce que c'est né, en fait, ce projet? Est-ce que vous êtes dit, on n'a plus de place, il faut qu'on trouve un lieu? Ou est-ce que ça s'est fait autrement?
C'est pas vraiment arrivé comme ça. Comment c'est arrivé? En fait, je pense qu'on l'a en nous depuis longtemps. Et... on l'avait oublié, il était en train de dormir et il a ressurgi en fait il y a 2 ans et demi maintenant. C'est vrai que Quand je suis revenu à l'association PayPay en 2016-2017, bah moi j'étais motivé pour revenir à l'asso, mais en fait j'ai pensé qu'il était temps de changer de lieu, en fait, de pas forcément de grandir, mais de passer à autre chose, en fait. Et puis bah après, en parlant avec les copains, les copines, bah forcément ça monte, on a des rêves plein la tête, et puis on s'est tous un peu lâchés, et en fait on est arrivé à la construction de ce projet là en fait, rue de la Chaloire.
Ouais, et Camille, tu disais, tu parlais un petit peu des espaces qu'on va pouvoir trouver. Alors, il y aura des salles pédagogiques, des bureaux, des ateliers.
Nos bureaux déjà, des espaces coworking. La nouveauté quand même, et qui est pour nous hyper important, c'est le bar et le restaurant. Voilà, c'est des ressources qui vont nous permettre de financer une partie de notre de nos missions d'intérêt général, qui sont l'accompagnement artistique, la pédagogie et la diffusion, quoi, permettre l'accès aux concerts et pas que, parce que du coup le tiers-lieu, il est situé entre Montplaisir et le quartier Ney, donc on est dans un quartier résidentiel, et la programmation dans ce lieu-là, on voudrait vraiment qu'elle soit adaptée à toutes sortes de publics, quoi, autant du jeune public jusqu'aux adultes. Et du coup, donc on aura principalement des concerts, je précise, intimistes. Et voilà, ce ne sera pas boum boum, parce que la salle, elle n'est pas trop conçue pour, mais des concerts avec tous les styles représentés, éclectiques. Et puis aussi, on aimerait bien faire entrer d'autres disciplines comme le théâtre, la danse, et continuer les expositions aussi.
Donc voilà. C'est tout un écosystème autour de la création.
Oui.
Je crois que c'est quelque chose qui a écrit dans la présentation de votre projet.
C'est ça. Mais du coup, c'est la programmation. On aimerait vraiment que ce lieu soit collectif et citoyen. D'ailleurs, c'est dit dans le projet. La programmation, on n'aimerait pas la déléguer à une personne, mais utiliser tous les acteurs culturels qui sont sur le territoire pour pouvoir... pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils donnent... les talents, leurs talents, leurs coups de cœur pour qu'on les diffuse. Il faut que ce lieu, ils vivent avec des énergies collectives, quoi.
Ouais, donc c'est au point de départ porté par PayPay, mais qui peut être partagé avec d'autres structures.
C'est important. C'est important pour nous, et comme c'était aussi important d'accueillir d'autres structures dans ce lieu-là qui vont prendre des bureaux. On ne voulait pas être tout seul dans ce lieu. On a besoin d'autres structures, on a besoin d'autres gens, on a besoin d'avoir... on a envie d'avoir d'autres idées, on a envie que les gens s'approprient le lieu, en fait, clairement. C'est important pour nous qu'eux aussi fassent vivre cet espace. On a envie d'avoir un outil qui permette au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer. Bon, là, essentiellement autour des arts, mais après, ça peut aller plus loin aussi, quoi, enfin... On peut aller jusqu'au numérique, on peut aller jusqu'à l'atelier de bricolage, de réparation de vélo. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais en tout cas, il nous fallait une base.
Ouais, c'est rue de la Chaloire. Il y a 700 mètres carrés à peu près. Est-ce que ça a été difficile de trouver ce lieu-là ?
Un petit peu. c'était long. Disons qu'on avait identifié 5-6 espaces sur Angers qui nous intéressaient, donc tout de suite on était assez gourmand, on a demandé des choses qu'on était quasiment sûr de ne pas avoir. On nous a gentiment dit que nous étions très drôles, et bref, après 4-5 demandes, je savais que le bâtiment de l'ancienne Biocop rue de la Chaloire était vide depuis un moment. Je savais pas exactement à qui il appartenait, mais voilà, et on est tombé assez d'accord là-dessus avec la ville, puisque eux l'avaient racheté 6 mois avant. C'est un peu le fruit du hasard qui a fait ça. Et du coup, ils l'avaient racheté dans un autre but par rapport au réaménagement du quartier, un peu dans sa globalité. Et je pense qu'ils se sont dit que tant qu'à faire, autant mettre quelqu'un en attendant de mener à bien leur projet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à signer un bail de 7 ans au 122 rue de la Chaloire, dans l'ancienne CABA.
Et justement, de passer de cette maison historique, de la maison PayPay, à ce lieu que vous allez ouvrir en septembre, donc vous allez complètement déménager, vous allez laisser de côté la maison ?
Non, la garde.
Ah, vous gardez la maison ?
En fait, on a des copains qui habitent dedans encore, qui font partie de l'asso. Et du coup, on va quand même garder les locaux de répétition, en fait, dans cette maison-là. Voilà. Donc les trois colocataires qui continuent à y vivre font partie de l'asso, et ils vont juste
Avoir gentil. Moins de passages.
Ouais, avoir un peu moins de passages, mais bon, on garde quand même cette partie-là et on ne peut pas, en fait, on peut pas quitter la maison. Quoi. C'est...
Je trouve que c'est une belle idée de participer à un futur lieu de vie, un lieu où on va pouvoir vivre des choses, découvrir des artistes, soutenir des artistes. Enfin, je trouve...
Là, c'est un super projet sur Angers quand même. Enfin, on a de la chance.
Ça vous manquait un lieu comme ça à Angers ?
Ouais, clairement. Après, voilà, il y a plein de nouveaux projets qui sont naissants aussi sur Angers. Moi, je trouve que Angers, c'est quand même vachement dynamisé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a plein de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Donc, tant mieux. Je trouve que c'est une ville qui commence à bouger sérieusement culturellement. Donc, voilà, on est loin d'être les seuls. Mais en tout cas...
En tout cas, vous mettez une grande pierre à l'édifice avec un tiers-lieu.
Bah ouais, on essaye de mettre en tout cas notre petite pierre à l'édifice dans notre domaine.
Donc on peut venir vous proposer des projets aussi
bien
pour
sûr.
Le lieu. On peut
ouais,
se dire,
bien sûr.
Moi j'ai envie de porter un atelier de macramé.
Oui,
bah, je peux.
Carrément.
Bah,
c'est fait pour.
Je viendrai avec mon atelier de macramé. Non, pas du tout. Bah, merci beaucoup, Camille. Merci, Arthur.
Merci à toi.
On était avec l'association Pai Pai. Je vous rappelle que l'ouverture du tiers-lieu dont on parlait, le 122, c'est à partir de mercredi prochain. On sera le 22 janvier. C'est au 122 rue de la Chalouère. Vous voyez un petit peu la résonance des chiffres. Il y aura de la vidéo, de la diffusion de la pédagogie, du bar. Ça, c'est les pôles de ce lieu. Toutes les infos sont sur le site de l'association Pai Pai et sur les réseaux ou bien sur le podcast de l'émission. Dans les prochaines actualités importantes culturelles à Angers, c'est bien sûr le festival Premier Plan qui va débuter ce vendredi, c'est demain, et qui aura lieu jusqu'au dimanche 26 janvier. Tout le monde connaît bien ce festival des premiers films européens. Il y a la compétition des longs-métrages, dont le jury est présidé cette année par Juliette Binoche, mais il y a aussi des courts-métrages et tout un tas de compétitions. Il y a également des rétrospectives thématiques. Je vous invite à découvrir l'ensemble du programme sur le site premierplan.org et surtout à être curieux, à être curieuse, à aller voir les films qui vous font un peu de l'œil, à aller voir les films où vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être et à aller voir aussi les conférences, les ateliers. Il y a beaucoup de choses autour du numérique, autour du cinéma d'animation. C'est extrêmement riche. C'est à partir de demain et jusqu'à dimanche 26, Festival Premier Plan. D'ailleurs, la semaine prochaine, L'Oreille Curieuse se transforme en émission spéciale consacrée au festival Premier Plan. Nous enregistrerons chaque jour une émission au cœur du festival. Vous pouvez assister à l'enregistrement, c'est entre 15h et 16h du lundi au jeudi et ce sera bien sûr au Centre des Congrès. L'Oreille Curieuse continue, je vous propose maintenant d'écouter un petit groupe qui monte, c'est Métronomie avec le titre Boy Racers sur l'album culte Love Letters.
Thank you.
Vous écoutez Radio G et l'oreille curieuse. Et maintenant, on va retrouver la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît. Salut Benoît.
Salut Annie, bonne année à tous.
Ah,
et
oui.
À toi d'abord.
Mais à toi aussi, bonne année à vous tous qui nous écoutez, à qui je n'ai pas encore souhaité si vous n'écoutiez pas. Qu'est-ce que tu apportes dans ta chronique aujourd'hui?
Ah bah des actus, plein d'actus, pas d'agenda parce que
trop d'actus.
Je vais être honnête, je n'ai pas pris le temps de chercher vraiment dans le détail.
Mais on est habitué, on sait où chercher maintenant.
Oui, voilà, il y a quand même des lieux sur le web où vous pouvez trouver des conférences, des cours, des travaux pratiques, des ateliers de jardinage, bon bref, ça existe. N'hésitez pas à aller chercher. Quelques petites actus. Alors d'abord une première info, alors très courte parce que vraiment je voulais partager ça, j'ai vu la vidéo et je l'ai trouvé extrêmement sympa. Ça concerne la première mention d'un oiseau marin qui utilise un outil.
Génial.
Alors, ce petit oiseau, parce qu'il est petit, c'est le macareux moine. Mmh. C'est vraiment adorable. Hein. On en trouve sur les côtes françaises, notamment dans l'ouest de la France, en Bretagne. Et en fait, pour la première fois, il a été observé en train de manier une petite brindille, en fait, pour se refaire le plumage.
Génial.
Ça dure quelques secondes, c'est très rigolo. Et c'était pas connu pour les oiseaux marins qui sont pas forcément réputés comme étant aussi évolués que d'autres oiseaux, notamment tous les oiseaux chanteurs et parmi eux les corvidés qui sont classiquement, enfin, on dit que c'est les oiseaux les plus intelligents, mais il y a une forme d'intelligence chez tous les animaux, tous les oiseaux, mais pour les oiseaux marins c'est la première fois qu'on observe ce comportement. Alors on avait vu des corneilles, enfin des animaux utiliser de manière, ou des perroquets de très très fines des objets, les choisir, etc., les réutiliser pour reproduire des tâches. Ça s'est vu pour la première fois chez ce petit oiseau, donc je vous encourage à aller voir la vidéo, elle est sur le net. Donc ce petit macareux qui prend une petite brindille, c'est
marrant. Refaire une coupe.
Se refaire une beauté.
Trop bien. Donc ça. On tape macareux, outil,
Je ne sais pas trop, mais
je regarderai. J'essaierai de le mettre en lien.
Vous cherchez. Alors là, maintenant, on va plonger dans la chaude, très très chaude actualité.
Voilà.
Okay. Et évidemment, on va encore parler plutôt environnement aujourd'hui, avec une mention de... Bon, on va en parler rapidement parce qu'on en a parlé beaucoup. C'est vraiment dramatique ce qui se passe en Australie avec des incendies qui n'en finissent plus, en fait, par sans doute l'année 2019 qui a été la plus chaude et la plus sèche connue, en fait, sur l'Australie, hein, depuis qu'on suit le climat, enfin, qu'on suit les phénomènes météo.
Une bonne centaine d'années, quoi.
Voilà, donc évidemment, pénurie d'eau un peu partout. Enfin, c'est la catastrophe, c'est une catastrophe pour le monde sauvage. D'une manière générale, on l'a vu des images dramatiques, les koalas, etc. Il s'avère que des mesures vont être prises pour très prochainement pour abattre 10 000 dromadaires sauvages en Australie. Alors, bon, il faut ne pas s'affoler. Hein. Déjà, les dromadaires sont une espèce invasive en Australie. Pour la petite histoire, ils ont été amenés au 19e siècle, au moment de la grande colonisation et de l'utilisation de l'Australie comme terre de production, en fait. Et bon, les moyens n'étaient pas mécanisés à l'époque, donc les dromadaires, c'était des animaux très commodes pour faire du convoiement, pour le transport, en fait, à travers le continent australien. Sauf que la mécanisation, elle est vite arrivée, et puis les gens ont arrêté d'utiliser les dromadaires, qui se sont retrouvés à l'état sauvage, en fait, qui sont retournés à l'état sauvage, et ben, il y en a des millions, en fait, hein, en Australie. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, il y a des campagnes d'abattage. Donc là, en ce moment, la situation est un peu critique parce que les dromadaires menacés par le manque d'eau. Hein, les dromadaires sont résistants au manque d'eau, mais bon,
mais
là,
quand même... Il faut quand même boire un moment.
Voilà, il faut bien boire. Donc, ils se rapprochent de plus en plus des populations, des lieux où il y a encore de l'eau. Ça peut créer des problèmes parce qu'ils sont très nombreux. Et donc, quand il y a quelques centaines de dromadaires qui déboulent quelque part, il y a des problèmes avec la population, les automobilistes, les réserves de nourriture aussi, les cultures. Donc voilà, il y a des mesures. C'était une info pour dire qu'il y a aussi... il y a des animaux qui meurent dans les incendies, mais il y a des animaux aussi qui posent des problèmes par les déplacements provoqués par les incendies. Et donc, il faut prendre des mesures. Alors, ce n'est pas des mesures nouvelles, hein, puisque... entre par exemple 2010 et 2014, il y a 160 000 dromadaires qui avaient été abattus sur ces 4 ans. Voilà. Alors comment ils font? En général, ils les tuent par hélicoptère. donc au fusil. Alors ça doit être un boulot énorme, enfin c'est terrible.
Ouais.
Mais voilà, c'est comme ça, le dromadaire, au final, il n'avait pas grand-chose à faire en Australie.
Oui, par la force de l'histoire, colonisation, déplacement.
À l'inverse, ils ont aussi un problème, je dis ça pour l'équivalent, mais il y a un programme australien aussi qui prévoit de tuer plus de 2 millions de chats d'ici à l'horizon 2020, donc cette année, parce qu'il y a aussi un problème avec les chats en Australie.
Ouais, pour la biodiversité, les oiseaux, on en a déjà parlé un petit peu.
Exactement, donc voilà. Autre point maintenant, c'est toujours, on est un peu sur le même thème. Et la question c'est, pourquoi les Nord-Américains sont autant climato-sceptiques?
Alors, c'est très vrai bonne question.
Il y a une étude qui a été publiée. Alors, j'ai lu un article tout à fait intéressant qui en fait la synthèse sur mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pour qu'il y ait autant de personnes qui doutent, qui disent que c'est faux, que ça n'existe pas, ou alors, à la rigueur, si ça existe, il n'y a aucune responsabilité humaine, etc. Donc,
ça n'a rien à voir avec mon 4x4. Pas du tout.
Bah non, pas du tout. Non, bien sûr que non. Alors, je parlais des Nord-Américains, c'est un phénomène qui est un peu partagé avec aussi de quelques autres pays, dont le Brésil, l'Australie, voilà, et l'Arabie Saoudite. Donc, qui sont à plein d'égards, pas forcément des modèles de pays modernes, progressistes, etc.
Non, en tout cas, de politique environnementale, pas forcément super
voilà.
Au point.
Bah, c'est-à-dire que ces quatre pays ont été très actifs dans les blocages au niveau des textes internationaux, c'est-à-dire qu'en œuvrant pour que les choses ne se fassent pas. À l'inverse, par exemple, de la Chine et de l'Inde, qui disent « nous, on ne fait rien, mais pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas responsables. C'est vous qui, avant, en tant que pays riche, avez fait ça. »
Oui, aujourd'hui, puis elles le subissent aussi.
Ils subissent aussi, mais ils se retranchent aussi derrière cet argument, qui est un faux argument, en fait. Ouais. Hein, parce que...
La géopolitique de l'environnement.
Une des premières causes du climato-scepticisme de ces pays-là, et notamment des Américains, puisque c'est l'exemple qu'on va prendre quand même, hein, il est le plus emblématique, c'est une cause que les gens qui ont fait l'enquête ont appelée « l'effet Trump ».
Oups.
Évidemment, ce gars-là rassemble à lui tout seul à peu près l'ensemble du climato-scepticisme américain.
Puissance 1000.
Ah bah,
parce qu'il y a aussi des personnes très conscientes du réchauffement climatique dans ces pays.
Bah, bien sûr, on va en parler, tu vas voir. Donc les États-Unis, c'est encore le pays, avec la Chine, mais le pays le plus puissant du monde, avec son président qui est maintenant très très médiatisé, qui communique beaucoup. Et qui affaiblit complètement la crédibilité des engagements internationaux en les discréditant sans arrêt, en expliquant que ça coûte cher, que c'est fait juste simplement pour nuire à l'économie américaine, aux Américains. Donc voilà, il a miné la COP25 parce que tout a capoté à cause de lui, etc.
Parce qu'il s'en fout royalement.
Mais donc maintenant, on peut s'intéresser au fait de comment Trump redescend dans la société américaine et fait que ces idées-là se répandent dans la société américaine. Alors, globalement, les Américains ont tendance à être moins inquiets du changement climatique que le reste du monde. Il y a à peu près 10 à 20% de taux en moins par rapport à cette inquiétude. Mais la majorité quand même des Américains considèrent que c'est une menace sérieuse. Donc ça a augmenté de 17% en 6 ans. Donc il y a cette prise de conscience. Donc ils sont 59% des Américains à penser que c'est une menace sérieuse. Alors où on va, si on gratte un peu, et c'est là que c'est intéressant, sur le plan de l'échiquier politique, il y a 83% des démocrates dans ce panel, il y a 83% des démocrates qui pensent qu'il y a une menace sérieuse et seulement 27% des républicains.
Donc l'écart est énorme.
Donc c'est énorme, il y a une différence de 56%, c'est énorme. Et donc voilà, et c'est là tout le nerf de la guerre, c'est qu'on s'aperçoit que le climato-scepticisme, comme chez les Américains, comme ailleurs dans le monde, hein, il existe chez les globalement ce qu'on peut. La catégorie qu'on peut nommer les populistes de droite. Donc voilà, les républicains américains sont les moins susceptibles de voir le changement climatique en fait comme une menace. Mais pourquoi les républicains américains sont plus climato-sceptiques que les électeurs de droite? En fait, c'est au fait que depuis les années, depuis l'après-guerre et même les années 70, il y a une très très forte polarisation de la politique américaine. En grosso modo, il y a deux camps dans lesquels on peut rassembler tout un tas de choses, des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui contribuent à scinder en fait la société américaine en deux. C'est aussi simple que ça. Et on peut mettre dedans, alors évidemment, le changement climatique, mais aussi l'avortement, les armes, les soins médicaux, les questions raciales, ou les droits pour les LGBT, les droits des femmes même. Et donc là c'est simplement bipolaire. Hein. Il y a les pour et les contre. Et il y a
très peu de nuances.
Et il y a très peu de nuances. Donc évidemment, ça oppose les démocrates progressistes aux républicains qui sont plutôt conservateurs avec des idéaux de liberté un peu partagés. Donc ça, c'est une des raisons, vraiment une des raisons sur ce climato-scepticisme ambiant qui est très présent dans cette frange politique en fait. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, les conservateurs, et depuis longtemps, hein, depuis l'ère Bush en fait, même peut-être même Reagan avant, eh bien, on va dans cette direction. Toutes les mesures pro-environnementales seraient des mesures anti-économiques contre les Américains, qu'il est privatif de liberté en plus, puisque dans l'idéal américain, par exemple, il y a une vision de la nature qui est tout à fait particulière. La nature, elle est là pour prodiguer des ressources
pour les humains.
Pour les humains, et voilà. Ça sert uniquement à ça et il n'y a pas d'autres enjeux. Or, et c'est une des raisons, enfin, qu'on peut expliquer aussi pourquoi, hein, les autochtones américains ont été bannis, refloués. Pourquoi ? Parce que c'est des gens, bah, finalement, qui n'utilisaient pas les ressources naturelles. Ils avaient leur propre vie où ils les utilisaient avec parcimonie pour une utilisation quasi individuelle. Mais les Américains sont arrivés en disant ces ressources, nous, on va les utiliser parce que c'est fait pour ça, etc. Donc, un autre point important qu'on peut soulever avant de terminer, c'est que y a toujours dans cette frange de population, c'est-à-dire les Nord-Américains plutôt républicains, font moins confiance aux scientifiques et à la science que les autres. Parce que globalement, les Américains font généralement confiance aux scientifiques à 86%, sauf pour la recherche environnementale. Où là encore, on trouve des grosses différences entre les républicains et les démocrates. Mmh. Donc 30% des cas. Et ceci dit, alors c'est même curieux, c'est même chez les personnes sondées qui ont des connaissances scientifiques, qui ont un background ou une formation scientifique, ça c'est très curieux. C'est-à-dire même des républicains qui ont une formation scientifique vont quand même aller dans cette direction. Y a un autre point aussi important, c'est que ça, c'est pareil, c'est sociétal. Les Américains se méfient généralement de l'État fédéral, même quand ils sont eux-mêmes au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les républicains se méfient de l'État qu'ils sont censés administrer, puisqu'ils sont au pouvoir aux États-Unis. C'est eux qui les administrateurs de l'État fédéral. Mais ils s'en méfient quand même. Donc, tout ça fait que si on ajoute le fait que il y a une sorte de paranoïa sur les institutions internationales comme l'ONU, pour lesquelles il y a presque la moitié des républicains qui ont une méfiance sur les Nations Unies. C'est un peu hallucinant. Donc il y en a même des républicains qui veulent tout simplement quitter l'ONU. Bref. Donc il y a tout un tas de choses qui font que... Bah, l'Amérique va mal de ce côté-là, quoi, et qu'ils sont en train un peu de tourner en rond jusqu'au mur, en fait.
Dans la méfiance.
Le doute, d'où, du coup, les théories des complots, etc. J'en passe
et les meilleurs. Et l'inaction pour l'environnement.
Et bah, complètement. Donc, ouais, c'était alors, quelques éléments pour expliquer ces phénomènes. Voilà, alors pour finir et faire le lien avec ça, un dernier résultat d'une étude qui est parue et qui est très parlante et criante d'éloquence, c'est que on a fait des études sur la couverture végétale dans les massifs montagneux, notamment à l'Himalaya. Et on s'est aperçu en fait que le niveau des végétations de la végétation augmente en altitude. C'est-à-dire que la limite, il y a toujours
des endroits où il n'y a rien qui pousse.
Voilà, la limite des endroits où il n'y a rien qui pousse remonte. de dizaines de mètres en dizaines de mètres. Et donc ça, ça a été vu. Alors je ne vais pas faire le détail de l'étude, c'est assez pointu. Ça a été fait grâce à des images satellites, etc. Pour des altitudes entre 4000 et 6000 mètres à peu près. Et donc il y a une augmentation significative de la végétation dans toutes les tranches de hauteur, et y compris à des endroits où avant il n'y avait pas de végétation. Et donc comment ça s'explique ?
Bah oui, ma grande question.
Eh ben, c'est parce qu'il fait plus chaud.
Ah, c'est super.
Il fait plus chaud plus haut.
Plus chaud plus haut.
Donc voilà, alors là, c'est pas compliqué. Quand il fait plus chaud, les espèces qui peuvent bouger en latitude, elles vont vers les latitudes plus au nord.
Ouais.
Mais les espèces qui ne peuvent pas bouger en latitude, elles montent en altitude. Sur un massif montagneux, par exemple, comme l'Himalaya, bah, ça monte en altitude.
Et ça peut bloquer pour les espèces qui vivaient tout en haut et qui ne peuvent pas aller au plus frais ?
Peut-être.
Peut-être.
À un moment donné, il y aura... À un moment donné, le problème se posera.
Bon.
Bon, désolé pour la nature anxiogène des actus ce soir. Mais
ça commence très fort, voilà, la chronique 2020.
On essaiera de faire plus ludique et plus fun pour les prochaines chroniques.
Ça fait partie des actus de la recherche. Je renvoie quand même à la première info qui était hyper sympathique. Ce macareux qui utilise sa petite
Allez
branche.
Allez voir ce petit macareux, il est trop sympa.
Cool, super. Merci beaucoup, Benoît. C'est la fin de cette émission. Toutes les infos seront prochainement en ligne sur la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, www.g.fr. Avant de nous quitter, je vous donne quelques infos à propos d'émissions spéciales qui arrivent très bientôt sur Radio G. Ce soir, à partir de 19h30, nous serons en direct du Chabada pour la sélection régionale des Inouïs du Printemps de Bourges. Ce concert est gratuit, il suffit de retirer une invitation en ligne, allez voir sur le site du Chabada, et vous y verrez 6 groupes et artistes de la région. Ellie MC, Fears, Sahara, Sally, Terrier et Wild Fox. Vous pouvez donc venir sur place voir ces artistes ou bien écouter toute la soirée sur les ondes à partir de 19h30. C'est approximativement dans 40 minutes. Au programme de cette émission réalisée avec bien d'autres radios de la région, nous allons avoir des interviews, des reportages et bien sûr les lives de ces 6 groupes sélectionnés. Ça, c'est l'info pour ce soir. Rendez-vous à 19h30. Et je vous le redis aussi rapidement, la semaine prochaine, on transforme l'Oreille Curieuse en émission particulièrement consacrée au cinéma. Nous enregistrerons chaque après-midi depuis le festival, au centre des congrès, entre 15h et 16h. Vous êtes les bienvenus si vous voulez assister à l'enregistrement de l'émission, c'est gratuit, il suffit de rentrer dans le centre des congrès. Et toutes les émissions seront diffusées le soir même à 18h10, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très vite sur les ondes. Et on se quitte avec le titre « Sun, Sun, Sun » de Barowski, un artiste local.
Radio G. 101.5 FM.
this shit. So start a fuss with me now, love. So start a fuss with me. So start a fuss with me now, love. So start a fuss with me. So start a fuss with me now, love. So start a wicked fuss with me. So start a fuss with me now, love, love. So start a fuss with me. So start a fuss with me now, love. So start a fuss with me. So start a fuss with me now, love, my love. So start a fuss with me. So start a fuss with me now, love. So start a wicked fuss with me.
Radio G 101.5 FM.